Donc, je reprends, on va parler de lui. On va parler de lui. Et on va parler de lui. C'est toujours le même. Les amis, nous allons parler, ça y est, nous ouvrons notre étude. Alors, elle va durer, hein, elle va durer, puisque on ne va pas se contenter d'un cours pour ça. Mais nous commençons à parler du Rav Avraham Itzrak HaKohen Cook. Ça y est, c'est parti. Nous sommes arrivés dans la deuxième moitié du 19e siècle, début 20e. Et ben voilà, Ein Mala Hazot, les années 1865-1935 vont tout simplement voir l'arrivée dans ce monde de Haroé Hagadol, le grand, grand visionnaire et le grand dirigeant du peuple juif qu'a été le Rav Kook. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On a énormément de choses à dire sur le Rav. On va prendre une première partie aujourd'hui où on va parler de sa vie. Et la prochaine fois, la semaine prochaine, on parlera plus de sa Torah et de voir quelle a été la particularité de la Torah. Je sais que vous êtes tous des spécialistes dans la Torah du Rav Kook. Vous étudiez Oroth avec le Rav Cherki. Donc, la Torah du Rav Kook n'a plus de secret pour vous. Mais on va se faire une petite récap la semaine prochaine sur qu'est-ce que c'est que cette Torah-là, pourquoi est-elle si incroyable. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Nous rentrons dans l'univers du Rav Avraham Itzrak HaKohen Cook. En 1865, va naître le Rav Cook, le 16 Elul 1865. Il partira Beginze Meromim le 3 Elul 1935. Les amis, alors le Rav Kook, la première chose qu'on va dire sur sa biographie, eh bien, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait consciemment, et pourtant, il est de manière essentielle porteur de cette réalité-là. D'ailleurs, ça va être l'un des points essentiels de son message. Quand on parle du Rav Kook, on parle de unité. On parle de un, on parle de Yichud Amidot. Eh bien, l'unité, c'est ce que va faire le Rav Kook, ne serait-ce que par sa naissance. Il va cristalliser l'unité dans une marloquette énorme qui sévissait déjà depuis 100 ans, enfin presque, oui, presque, on peut dire 100 ans, au sein du peuple juif. De quoi je parle? Eh bien, comme vous le savez, depuis le XVIIIe siècle et l'arrivée de la Chassidoute, il y a une marloquette énorme entre ce qu'on appelle les Chassidim, les élèves du Baal Shem Tov, et les Mitnagdim, les élèves du Gaon de Vilna. Donc, marloquette énorme qui va aller des fois très très loin, jusqu'à se dénoncer aux autorités, aller en prison, Bekitsour, marloquette pas simple. Eh bien, le Rav Kook, de par sa naissance, va réunir les deux mondes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il est le père, il est le fils de son père et il est également le fils de sa mère. Et là, vous êtes en train de vous dire, ben oui, c'est très bien, kol hakavod, ma. Eh bien, il est tout d'abord le fils de son père, le Rav Shlomo Cook, qui était l'un des élèves de cette école des Mitnagdim. Et oui, il était Mitnaged comme il faut. Par contre, sa mère, eh bien, était la fille d'un des tout proches, des mamaches tout tout proches, du Tzemar Tzedek, qui était le troisième rabbi de Chabad. Donc d'un côté, le Rav Shlomo Zalman Cook, qui fait partie des Mitnagdim à l'ancienne, et d'un autre côté, une maman qui est de la famille de Chabad. Si bien qu'à sa naissance, eh bien, vont arriver à la Brit Mila du Rav Kook, du petit jeune Avraham Itzrak, vont arriver une Mishlachat, comment dire en français, j'ai plus le mot, une Mishlachat, quoi, une délégation. Une délégation, merci beaucoup, une délégation Chabad qui vont arriver sous les ordres du Tzemar Tzedek pour lui donner en cadeau de Brit Mila un morceau de son manteau. Et c'est avec un morceau de son manteau qu'on va confectionner la kippa du Rav Kouk. Cette kippa qu'il ne quittera jamais dans toute sa vie. Eh bien, l'homme qui est le fils de la Mitnagdout et le fils de la Chassidout, eh bien, va dévoiler une Kabbalah absolument incroyable qui va prendre le meilleur des deux mondes pour l'élever encore plus haut. Donc, on voit que déjà, dès sa naissance, le Rav Kouk est un homme d'unité. Alors après, bon, je ne vais pas vous redire que dès son plus jeune âge, tout le monde le prend pour un ilouï, que ça paraît clair pour tout le monde, que c'est quelqu'un qui va être un grand dans la Torah, parce que c'est vrai, mais j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un dans ce cours, c'est ce qui se passe. Donc, ce n'est pas ça qui va vraiment me mettre en avant. Par contre, eh bien, le jeune Avraham Yitzhak, et ça, c'est une histoire qui est très connue, le jeune Avraham Yitzhak, lorsqu'il est encore petit et qu'il est au Talmud Torah, au Cheder, eh bien, son jeu de prédilection, lorsqu'il y a une pause entre les différentes études, eh bien, c'est de prendre un sac, de le remplir de chiffon, d'en faire un baluchon, de le mettre sur l'épaule et de dire à tous ses camarades, « Les amis, on y va !» Et tout le monde de lui répondre, « Mais on va où ?» Et il répond, « Be'eretz Israël ». Dès son plus jeune âge, il a les yeux tournés et rivés vers Eretz Israël. Bien, les amis, comment vous dire? Comment vous dire? Il va avoir une prise de conscience incroyable. Lorsqu'il sera un jeune étudiant à la yeshiva, lorsqu'il sera dans ses premières années où il grandit, eh bien, il décidera une fois par semaine de faire ce qu'on appelle une mishmar. Alors, vous connaissez le concept de la mishmar, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on va étudier toute la nuit. On étudie toute la nuit et on ne va pas se coucher. Et un jour, lors de sa mishmar, avec sa chavruta, il lui dit, est-ce que tu te rends compte qu'il est peut-être possible que c'est sur nous maintenant que le monde tient? Puisque le monde ne peut pas tenir sans Torah. Et là, tout le monde dort. Mais peut-être que là, maintenant, tout le monde dort, sauf nous deux. Et nous sommes responsables du monde. Les amis, alors évidemment que ce n'est pas vrai. Évidemment qu'il y a d'autres personnes qui étudient à ce moment-là dans le monde. Mais une chose est sûre, il a cette troucha-là, il a ce sentiment-là d'une chliroute incroyable dès son plus jeune âge. Et quand il est déjà étudiant en yeshiva et pas encore rabbin, eh bien, d'avoir la responsabilité du monde sur ses épaules. Ben, c'est pas rien. Ben non, c'est pas rien. Et finalement, lorsqu'il va se marier, alors, il va étudier d'abord, il faut qu'on le dise, il va étudier à la yeshiva de Volozhin. Et là, je pense que c'est quelque chose qui doit être mentionné. Il va étudier à l'yeshiva de Volozhin. Comprenez bien que l'yeshiva de Volozhin, ce n'est pas une autre yeshiva. L'yeshiva de Volozhin, c'est la plus grande yeshiva de toutes les yeshivot. Et lorsqu'il étudie à la yeshiva de Volozhin, c'est pendant sa période de fiançailles. En fait, il a 19 ans lorsqu'il est Ousmar la Rabbanout. Donc, il est déjà rabbin. Et là, ce qui est important aussi, c'est toujours de se rappeler d'une chose. Vous savez, dans le peuple juif, eh bien, nous ne sommes pas chachamim. Les rabbins ne sont pas des chachamim. Ils sont des talmidei chachamim. Ma kavana talmidei chachamim. Eh bien, ce n'est pas qui tu es qui est important, mais de qui as-tu appris. Et quand on parle du Rav Kouk, eh bien, les amis, on peut parler de, grosso modo, quatre grands personnages qui vont être ses maîtres. Il y a tout d'abord, évidemment, celui qui va lui donner la smicha la rabbanout. Alors, celui qui va lui donner la smicha la rabbanout n'est autre, excusez-moi du peu, du Rav Yechiel Michal Epstein. Rav Yechiel Michal Epstein n'est autre que le Aruch HaShulchan, un des plus grands commentateurs de la halakha. Et donc, c'est lui qui va donner à 19 ans la smicha la rabbanout au Rav Kouk. Donc déjà, excusez-moi du peu. Il va être également l'élève de son beau-père. Et oui, lorsqu'il va se fiancer, il se fiance à la fille du Rav Eliyahu David Rabinovitch, Théomim. Eh bien, il est appelé dans le langage des rabbinim Baal Haaderet. Il est à Haaderet. Eliyahu David Rabinovitch Théomim. Eh bien, ce Rav Haaderet, qui est déjà parmi les rabbins les plus connus de son époque, eh bien, il choisira le Rav Kook. Et il dira du Rav Kook, j'ai choisi un Khatan dont je n'arrive pas à la cheville. Vous comprenez que à Haaderet, je vous dis, c'est un rabbin. C'est le rabbin de la ville de Poniovitch et ensuite de la ville de Mir. Vous connaissez, vous avez entendu ces yeshivot, Poniovitch et Mir. Ben voilà, à Haaderet, c'était lui le patron de ces yeshivot-là. Et il choisit comme Khatan le Rav Kook, qui n'est autre que celui dont il dira « Je ne lui arrive pas à sa cheville ». Et puis, dans sa période donc de fiançailles, pendant les 1 an et demi, presque 2 ans, entre le moment où il se fiance et où il va se marier, eh bien, il part étudier à la yeshiva de Volojine et il devient évidemment l'élève numéro uno du Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, du Natsiv de Volojine. Enfin, son dernier grand maître, eh bien, ne sera autre, et c'est quelqu'un qu'on aurait dû évoquer, mais on va l'évoquer justement maintenant, grâce à son élève. Il est l'élève du Rav Shlomo Eliashiv. Alors, qui est le Rav Shlomo Eliashiv? Eh bien, le Rav Shlomo Eliashiv, Rabotai, est le grand-père du Rav Yosef Shalom Eliashiv, celui que nous, on connaît comme étant le Rav Eliashiv. Mais le Rav Eliashiv était d'abord l'élève du Rav Kook, qui lui-même était l'élève de son grand-père, le Rav Shlomo Eliashiv. Qui est le Rav Shlomo Eliashiv? Eh bien, le Rav Shlomo Eliashiv n'est autre que l'un des plus grands Mekoubal du 19e siècle. Il est celui qu'on appelle Baal HaLeshem. Eh oui, il va écrire le livre Leshem Shvo Ve'Achlama, qui est l'un des livres de Kabbalah les plus essentiels du 19e siècle, qui est un commentaire du Sefer Etzraïm de Rabbi Chaim Vital et de l'enseignement du Gaon de Vilna. Le Rav Eliashiv était également un des fervents adeptes de la Torah du Gaon de Vilna. Donc c'est vraiment, voilà, c'est d'un autre côté, il va s'opposer, Baal HaLeshem, à la Torah du Ramchal et du Baal Shem Tov, et même le Rav Kook, lorsqu'il va devenir le Rav Kook et qu'il sera un grand de la Kabbalah, eh bien, va écrire au Baal HaLeshem pour essayer de réunir toutes les chitotes. Enfin bon, tout ça pour vous dire que le Rav Kook a donc plusieurs rabbins qui vont faire de lui son identité. Il est l'élève du Rav Michael Michal Epstein, donc toute la base de la halakha dans sa main. Il est l'élève de son beau-père, Baal Haaderet, de Rav Haaderet, qui n'est autre que toute l'étude litaïte yeshivatique, il l'a dans sa main. Il est l'élève du natif de Volojine. Et là, attention, tenez-vous bien, le natif de Volojine, d'ailleurs, je me rends compte, on n'a pas parlé du natif de Volojine. Je dis une bêtise ou je dis pas de bêtises? On a parlé du natif de Volojine?
Non.
Mais c'est n'importe quoi. Mais enfin, bon, alors, je viens de me rendre compte qu'on vient de faire une très, très grande erreur. J'étais tellement pressé de parler du Rav Kook. Mais alors ça, j'étais persuadé. Bon, bah alors, autant pour moi, on parlera du Natsiv la semaine prochaine, Bezrat Hashem Bin Neder. Désolé, ça ne sera pas logique. Ou alors, je m'arrête tout de suite de parler du Rav Kook et on parle du Natsiv. Mais bon, là, on est lancé. Donc, c'est un peu compliqué. Hein, qu'est-ce que tu dis?
On est lancé, on est lancé.
On est lancé. On est lancé. Donc la semaine prochaine, excusez-moi, on reviendra un petit peu en arrière pour parler du Rav Kook, le natif de Volojine, parce que ben, ça vaut le coup. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, donc le natif de Volojine, on verra la semaine prochaine, mais il est celui qui va écrire le livre qui s'appelle Emek Davar. Et le Rav Kook dira de ce livre Emek Davar que celui qui connaît le Emek Davar, Yachar, Ve'afour, Ve'alarson, en long, en large et en travers, ou Talmit Racham, Lama, parce que dans le Emek Davar, Yesh et Kol HaTorah Kula. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et enfin, il est l'élève du Baal HaLeshem, Rabbi Shlomo El Yashiv. Alors vous comprenez, que les quatre piliers de la Torah, la halakha, le limoud, le pshat et la Kabbalah, eh bien, c'est de là que le Rav Kook va puiser toute sa Torah. Donc, vous comprenez à quel point ça va créer un personnage extraordinaire. Eh bien, c'est en 1891, si je ne m'abuse, qu'il va devenir... c'est en 1888, autant bon, c'est en 1891, le Rav Tzvi Yehuda va venir au monde. Mais en 1888, il devient le rabbin de la ville de Zimmel. C'est là qu'il se fait les dents. Ah, il se fait les dents sur la petite ville de Zimmel, tranquillement, et il va rester là-bas pendant 7 ans. 7 ans dans lesquels il va continuer à étudier, à étudier, à étudier, et à grandir dans sa Torah. Mais c'est à Bioïsk, lorsqu'il arrive là-bas en 1895, qu'il va commencer à écrire. Qu'il va commencer à écrire ses bouquins. Et là, eh bien, il va falloir qu'on fasse un petit stop dans la linéarité de sa vie pour essayer de comprendre mais quels sont les livres du Rav Kook. Parce que quand on parle du Rav Kook, on a l'habitude de dire bon, bah, il a écrit le livre de Horoth. Mais ça ne s'arrête absolument pas là. Il faut bien comprendre une chose. Le Rav Kook va écrire tout d'abord un premier commentaire qui est un commentaire de la Torah. Un commentaire de la Torah qui s'appelle Midbar Shur. Midbar Shur, donc commentaire de la Torah, Alpia Parashiot, classique, mais fantastique. Ensuite, il va tout simplement écrire un commentaire des Haggadot du Chasse, enfin plus particulièrement des traités de Shabbat et des traités de Brachot. Donc, ces livres de commentaires sur la Haggadot s'appellent Ein Aya. Ein Aya, extraordinaire. Mais ça, c'est pour se faire les dents, si j'ai envie de te dire. Parce que finalement, eh bien, il va continuer à écrire des livres en veux-tu, en voilà. Et j'aimerais commencer à parler les livres de Halakha. Parce qu'on connaît moins les livres de Halakha du Rav Kook. On a dit une grande partie de son étude, de son identité de Torah est une identité de Halakha. C'était un des plus grands possèques Halakha de tous les temps. Et donc, il va écrire un livre qui s'appelle Mishpat Kohen sur les mitzvot atluyot baaretz, sur les lois également du Beit Hamikdash et du Sanhedrin, des Korbanot. Un autre livre qui s'appelle Orach Mishpat, dans lequel il va traiter des sujets de Choshen Mishpat au niveau de la Halakha. Un livre qui s'appelle Ezrat Cohen, sur la partie qui s'appelle Even Haezer dans le Shulchan Aruch. Une partie qui s'appelle Dat Cohen, sur la partie qui s'appelle Yoredea. Un livre qui s'appelle Shabbat Haaretz, sur la mitzvah de la Shemitah. Et un livre qui s'appelle Be'er Eliyahu, dans lequel il va tout simplement faire les explications sur les explications du Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch. Donc on est quand même pas mal. En termes de commentaires de la Gemara, il va écrire un livre qui s'appelle Zifrei Reiya sur les commentaires du traité de Chulin, Mitzvot Areiya sur le Sefer HaTour, un livre qui s'appelle Etz Adar sur l'importance des Arbat Aminim et sur l'importance des Etrogim qui viennent des Retz Israël, un livre qui s'appelle Chukot Haaretz sur Ilchot Kilaim. Un livre qui s'appelle « Touvrei », qui sont des likoutim de la halakha sur plein, plein, plein de sujets. Donc, en termes de halakha, on est quand même pas mal. Il va écrire également des livres. D'abord, il écrit un livre sur la mémoire de son beau-père qui s'appelle « Eder Haïke ». Alors, on est reparti. On est reparti. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais enfin bon. Donc, il écrit un livre, on a dit, à la mémoire de son beau-père, Eder Haïkar, un livre de Marchavot qui s'appelle « Ikve Hatson », qui va l'amener à écrire un autre livre qui s'appelle L'Inevouché Ador. Alors, L'Inevouché Ador est très controversé, même chez les élèves du Rav Kook. Pourquoi? Parce que là, il est sans filet. Il est sans filet dans L'Inevouché Ador, et c'est un des livres les plus extraordinaires qui soit. Bessayder, en tout cas, il écrira également un livre qui s'appelle Moussar Avicha Vemidot Areiya, qui est un livre de Kabbalah sur les Midot, fantastique. un livre qui s'appelle Rechmilin sur l'alphabet et la valeur des lettres hébraïques, extraordinaire, Kulo Kabbalah, Chazon HaTzimchonut VeHaShalom sur l'idéal de la fin des temps. Mais il écrira également un commentaire de la Tefila, commentaire de la Tefila très important qui s'appelle Olat Re'iya, très très important. Et il y aura également un livre beaucoup plus accessible, deux livres en fait, beaucoup plus accessibles. Un qui s'appelle Ma'amrei HaRe'iya. Pourquoi je dis beaucoup plus accessible? Et bien parce qu'en fait, Ma'amrei HaRe'iya, ce sont ses drachot, c'est ce qu'il a dit en tant que rabbin de communauté quand il était en Israël. En d'autres termes, c'est un langage qui est plus audible puisqu'il a dû le dire aux gens. Donc, Ma'amrei HaRe'iya, si on veut commencer à étudier le Rav Kook, le plus facile, c'est Ma'amrei HaRe'iya. Et puis, il y a également un autre livre qui est accessible au niveau du langage qui s'appelle Igrot Re'iya, qui sont un recueil de ses lettres qu'il envoie donc à plein de gens. Donc, là aussi, c'est un langage qui est plus accessible. Et tout ça nous emmène à sa masterpiece. Alors, c'est quoi sa masterpiece? Alors, d'abord, juste avant de passer sur sa masterpiece, aujourd'hui, il y a encore des livres qui sortent. Et pas long, il n'y a pas longtemps, on a sorti le livre Shmonek Vatzim, Arpil et Toar, Kvatzim Miktaviat Kocho, c'est-à-dire plein, plein, plein de textes qui ont été retrouvés et qui n'ont pas été mis en forme. Et donc c'est des livres incroyables parce qu'on a vraiment le texte sans qu'il ait été travaillé. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis il y a également une entreprise qu'il va commencer et qu'il ne terminera pas de son vivant, qui s'appelle Halakha Berura. Halakha Berura, où l'objectif est de prendre toutes les sougyot du Talmud et de les amener jusqu'à la halakha d'aujourd'hui. De manière chitatique, de manière très ordonnée, c'est un travail énorme qui n'est toujours pas terminé. Quoi qu'il en soit, tout ça nous amène à sa masterpiece. Et sa masterpiece, eh bien, ce sont les livres qui portent le nom Oroth ou Oroth quelque chose. Ça, c'est l'essentiel de son propos. Et c'est ce qu'on développera la semaine prochaine sur quelle est la Torah du Rav Kook. Oroth, Oroth HaKodesh, Oroth HaTshuva, Oroth HaTorah, Oroth HaEmunah, qui n'a pas été écrit par le Rav Kook, mais qui est un recueil de ce qu'il a dit, et Oroth HaRe'iya, qui est là aussi un autre recueil. Donc, Bekitsour, on a ici un bonhomme qui va avoir une vie faite de. Ben, on ne sait pas en fait de combien de. A-t-on retrouvé ces textes? Tous les textes que j'ai cités, on les a. Hein. Tous les textes que j'ai cités, on les a. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est qu'on parle d'une machine à écrire, mais qui nous a laissé ces textes. Ce n'est pas comme le Ramchal qui a écrit énormément et pourtant une grande partie de ces textes, eh ben, on les a perdus. Non, non, non. On a tous les textes du Rav Kook. Enfin, tous. Non, j'imagine qu'il y en a qui sont pas encore là, mais tous ceux que j'ai cités, en tout cas, on les a. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'études. Il y a des gens qui, parce que vous savez que l'édition la plus classique des écrits du Rav Kook, ce sont des livres blancs. Et donc les élèves du Rav Kook ont tendance à appeler les livres du Rav Kook à chasse à la vanne, le chasse blanc. Bon, c'est une petite figure de style, mais enfin bon. Bekitsour, donc le Rav Kook va avoir une vie où il va passer son temps à écrire, mais pas du tout que. C'est-à-dire qu'il y a des rabbins qui sont dans l'écriture, et bah, en fait, dans leur quotidien, ils étaient en train d'écrire, et c'est dans la postérité qu'ils vont laisser quelque chose. Le Rav Kook, c'est ça, mais c'est absolument pas que ça. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas combien de temps il a dans ses journées. Il n'a même pas vécu extrêmement longtemps, puisque finalement, le Rav Kook ne va vivre que 70 ans. Je ne sais pas où il a trouvé le temps, parce que au-delà d'écrire tout ce qu'il va écrire, eh bien le Rav Kook, c'est un homme d'action. D'action, il va être présent dans dans toutes les étapes de la reconstruction du peuple juif. Les amis, nous sommes en 1904, lorsque, alors on a dit, il était le rabbin de la ville de Bioïsk en 1000. 895, c'est là-bas qu'il a été choisi pour être le rabbin donc de Bioïsk. Mais qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il ne va pas rester très longtemps, finalement, à Bielsk, puisque on lui fait une proposition. Fait une proposition qu'il ne peut pas refuser. C'est quoi cette proposition? Eh bien, c'est de devenir le rabbin de Yafo et des Moshavot. Ah bah oui, bah les amis, là, c'est terminé. Et là, à partir du moment où on a dit au Rav Kook, viens, j'ai envie que tu sois le rabbin en Eretz Israël, bon ben, vous l'avez perdu. C'était terminé. Bios, il n'y avait plus aucune chance. Et effectivement. Effectivement, c'est en 1904, sous l'impulsion d'un rabbin qu'on a déjà évoqué, Reb Yoel Moïse Salomon, vous vous rappelez de lui? Eh bien, c'est lui qui va tout faire pour faire venir le Rav Kook en Israël. C'est lui qui va faire en sorte de pouvoir lui faire avoir un certificat. Et en 1904, le Rav Kook arrive en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, Vezeu. Zeu, il devient le Rav de Yafo et des Moshavot. Et c'est lui qui va prendre à bras le corps toutes les Sheelot HaGdolot qui sont à ce moment-là. Vous vous rappelez, on l'a déjà évoqué lorsqu'on a parlé du Rav Shmuel Mohaliver. C'est lui qui, le Rav Mohaliver, avait été dans enfin, l'inventeur de ce qu'on appelle Hayeter HaMechira pour la Shemitah, mais celui qui va devoir faire face à la troisième Shemitah, qui est la plus difficile, eh bien, c'est le Rav Kook. Et lorsque le Rav Kook va faire face à cette réalité-là, eh bien, il va prendre le sujet du Hayeter HaMechira à bras le corps et va le développer encore plus. Si bien qu'aujourd'hui, les gens pensent que le Hayeter HaMechira, c'est le Rav Kook. Alors qu'on a dit, c'était d'abord le Rav Mohaliver, mais il va se saisir du projet pour faire en sorte de permettre la réussite des Hakhlaïm en Eretz Israël et la résurrection agricole en Eretz Israël. Quand on a dit tout à l'heure qu'il va écrire le livre Etz Adar, il va non seulement parler donc des Arba Taminim, mais il va également parler de l'importance des Etrogim d'Eretz Israël et de favoriser les Etrogim d'Eretz Israël. Il enverra une lettre à tous les rabbins qu'il connaît en Europe, leur disant qu'ils doivent absolument ordonner à leur communauté de n'acheter que des Etrogim qui viennent d'Eretz Israël. Pourquoi? Un, par la grandeur du Etrog qui vient d'Eretz Israël, mais deux, pour également permettre d'avoir une parnassa aux Hakhlaïm d'Eretz Israël. Et voilà ce qui va donner la deuxième particularité du Rav Kook. Il est complètement, mais complètement intégré dans la vie du peuple juif et dans la résurrection nationale. Ce n'est pas que dans ses textes, c'est dans son quotidien. Il a beau être un rabbin qui flirte avec les cieux, il est complètement sur terre et sait très bien de quoi il s'agit. Il n'hésitera pas. Il n'hésitera pas. Alors c'est plus tard, c'est lorsqu'il sera de rabbin de Jérusalem, mais il n'hésitera pas, par exemple, à faire tout le chemin depuis le centre-ville, Beit HaRav Kook, jusqu'à Armon HaNatziv, donc là où il y avait le palais du gouverneur britannique, pour aller faire exempter un soldat juif britannique du service du demain matin, puisque nous sommes à Yom Kippour, et alors qu'il y a un soldat britannique qui est venu prier avec le Rav Kook à la Chourva pour Kol Nidre, le Rav Kook lui dit, eh bien, à demain. Et le jeune soldat lui dit, bah non, je ne peux pas venir prier demain, je suis de garde et j'ai demandé qu'on me libère pour Yom Kippour, on ne m'a pas libéré. Et le Rav Kook, eh bien, ne va pas hésiter à faire tout le chemin, évidemment, c'est Yom Kippour, tout le chemin jusqu'à Armon HaNatziv, parler avec le gouverneur britannique, faire libérer le soldat pour le lendemain, revenir à pied jusqu'à la Yeshiva, jusqu'à sa maison, étudier toute la nuit et continuer à faire la tefila toute la journée du lendemain. C'est pas parce qu'on a la tête dans les cieux qu'on n'a pas les pieds complètement sur terre. En 1913, le Rav Kook va partir. Va partir pour la première de ses campagnes de Chizouk. Il part faire ce qu'on appelle Massa Amoshavot. Massa Amoshavot, c'est fantastique. Il réunit avec lui les différents rabbins d'Eretz Israël et de Jérusalem particulièrement, et ils vont partir vers tous les villages qui ont été créés depuis une trentaine, quarantaine d'années grâce au baron de Rothschild et d'autres. Des villages où bah, la Torah n'est plus forcément la pierre angulaire de leur réalité. Des fois oui, des fois non. Et il va là-bas pour non pas leur donner, mais pour s'imprégner et qu'il y ait un échange. Oui, il va leur donner de la Torah, bien sûr, mais il va pour s'imprégner d'eux. Si bien que dans l'un des villages à Rehovot, lorsqu'il arrive, eh bien, on organise une soirée danse. Évidemment, séparé, hein, hommes et femmes, mais le Rav Kook va trouver un petit jeune là-bas, Khalout, et lui dit, viens, on change nos habits. Je m'habille avec tes habits et tu t'habilles avec mes habits. Et ils vont se changer tous les deux et ils vont danser ensemble. Et tout le monde va être subjugué. Et le Rav Kook expliquera après que c'est le meilleur moyen pour comprendre à quel point moi j'ai à apprendre de lui de la même façon que lui a à apprendre de moi. Bien les amis, après la Massa Moshavot qui est un véritable succès, il y aura l'événement, l'épisode de Zichron Yaakov. À Zichron Yaakov, il y a une grande machloquette entre les gens de là-bas qui sont un petit peu influencés par des tendances modernes un peu à outrance et ça crée un petit peu une tension entre les rabbins qui sont arrivés et la communauté sur place. Et le Rav Kook décide que la Havdalah, il la fera dans la grande synagogue où il y a eu le problème, et il mettra de l'eau dans le vin. C'est pas le kiddush, midat ha-chesed, midat ha-din. Il mettra de l'eau dans le vin de la Havdalah, alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire, en disant à tout le monde que des fois, si on veut pouvoir avoir la bracha, eh bien, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que c'est lui qui a inventé l'expression « mettre l'eau dans son vin », j'en sais rien. En tout cas, après le succès de Massa Moshavot, il en fera d'ailleurs une autre plus tard, eh bien, il part en Europe. Comment ça, il part en Europe? Mais oui, fin de l'année 1913, il est invité par un rabbin pour devenir l'invité d'honneur à une conférence très importante. Quelle est la conférence? Eh bien, alors, il a invité fin de 1913, ce n'est qu'en juillet 1914 qu'il part. Il part pour la grande conférence de la Agudat Israël. Conférence de la Agudat Israël à laquelle il est invité par nul autre que le Rav Israël Meir HaKohen Miradin, en d'autres termes, le Hafetz Chaim. Oui, excusez-moi du peu. Et il est invité pour être le rabbin d'honneur qui va parler. Quel est le sujet de la conférence de Agudat Israël? C'est l'assimilation. Comment on se bat contre l'assimilation? Et le Rav Kook est invité pour donner le point de vue de Eretz Israël par rapport à l'assimilation. Il ne sait pas s'il doit partir, pas partir, partir, pas partir. Lorsque le Hafetz Chaim lui écrit et lui dit que il doit expliquer au monde, et au monde religieux, au monde toranique, que Eretz Israël est certainement le meilleur remède à l'assimilation, eh bien, le Rav Kook voit cette shlichut-là comme étant fondamentale, et il part. Et il part là-bas. Entre parenthèses, lorsqu'il parle et qu'il commence à parler, va se passer quelque chose. Juste pour que vous compreniez un petit peu de qui on parle. Vous savez, lorsqu'un rabbin va se lever pour prendre la parole, il est de coutume que tous les membres de l'assemblée se lèvent pour le kavod, et une fois que le rabbin commence à parler, eh bien, tout le monde se rassoit. Lorsque le Rav Kook se lève pour prendre la parole, eh bien, tout le monde se lève, et lorsqu'il est prêt à commencer à parler, tout le monde se rassoit, à l'exception du Hafetz Chaim, qui n'est plus tout jeune, à l'exception du Hafetz Chaim qui reste debout. Toute la conférence du Rav Kook, le Hafetz Chaim restera debout, appuyé sur sa canne, il restera debout. Et lorsqu'on lui demandera, alors il ne fera ça pour aucun autre des intervenants. Et pourquoi il fait ça? Lorsqu'on lui demande, il répondra « À Torah, Omedet !» Et vous voulez que moi je m'assoie? En parlant du Rav Kook, il dit « La Torah est debout, comment vous voulez que je m'assoie ?» Ça, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu qui est le Rav Kook. Non, parce que les choses soient bien claires. Le Rav Kook va avoir des détracteurs, évidemment. Le Rav Kook va avoir des gens qui vont être contre lui, bien sûr. Mais ça, c'est la preuve que c'est un grand personnage. Eh oui, tous les grands dans le peuple juif ont eu des détracteurs. Si tu as un rabbin où pendant toute sa vie, tout le monde a été pucci-mucci avec lui, ça veut dire qu'il n'a pas fait bouger les choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une influence fondamentale dans le monde. Si tu vois un rabbin qui a été ballotté de son vivant, c'est qu'il va faire bouger énormément les choses et que ça va être une révolution dans la Torah. C'est vrai pour le Rambam, pour le Ramchal, enfin on ne va pas tous les citer, mais c'est évidemment vrai également pour le Rav Kook. Alors, les amis, quand il est en Europe, eh bien, éclate la Première Guerre mondiale. Et donc, comme éclate la Première Guerre mondiale, il ne peut pas rentrer en Israël. Il est bloqué. Il est bloqué. Au début, il va mettre en prison parce que, comme c'est un Russe et qu'il est en Allemagne, alors ça ne va pas du tout. Finalement, il va partir en Suisse. Il va passer un petit moment en Suisse bloqué chez Monsieur Kimri qui va l'héberger. Et le problème, c'est qu'il va être en dépression totale. Parce que lorsqu'il est en Suisse, il se dit, en fait, je fais rien, quoi. Je fais rien. Et il écrit des choses, mais il est complètement perdu. Un jour, M. Kimri va l'emmener dans les montagnes suisses pour faire un petit tioul. Et il se mettra à pleurer en disant, Yerushalayim harim saviv la. Quand je vois les montagnes suisses, je pense aux montagnes de Jérusalem. Les amis, malasot. Malasot. Finalement, en 1916, eh bien, on l'invite à devenir le rabbin de la communauté de Marzikei HaDaat à Londres. Et là, le Rav Kook prend une décision. Il dit, si on me demande d'aller à Londres au moment où les Anglais sont en train de se battre pour arriver en Eretz Israël, c'est qu'il y a là la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc, j'accepte. Mais à une condition. Il accepte à une condition, c'est que lorsqu'il pourra revenir à la fin de la guerre en Eretz Israël, il revient en Eretz Israël. Et donc, en 1916, il devient le rabbin de la communauté de Marzikei HaDaat à Londres. Tov, il a fait mode. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, maintenant arrive 1917. Et en 1917, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre va conquérir toute la terre d'Israël de la main des Ottomans. Et il va y avoir la déclaration Balfour. Enfin, non, 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 non. Il n'y a pas la déclaration Balfour. Il y a d'abord un monsieur qui s'appelle Lord Balfour qui a envie de faire sa déclaration Balfour. Mais pour être sûr de ne pas faire un four, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, pour être sûr que Balfour ne fasse pas un four, eh bien, il va faire une déclaration test devant les rabbins de Londres. Le problème, c'est que les rabbins de Londres ne sont pas les plus grands sionistes de l'univers. Résultat des courses, eh bien, ils s'opposent à la déclaration Balfour. Et voilà. Ben voilà. Terminé. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au moment où Balfour se dit, bon, ben, finalement, je ne vais pas y aller, je ne vais pas le faire, un des membres de son staff lui dit, écoutez, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si déjà on parle de déclaration Balfour pour la Palestine, la terre d'Israël, eh bien sachez qu'il y a un rabbin d'Eretz Israël qui est à Londres, le Rav Kook. Peut-être ça vaut le coup de lui demander ce qu'il en pense. Et là, Lord Balfour va dire c'est une très bonne idée. Il va voir le Rav Kook et le Rav Kook va lui dire non seulement que c'est fantastique cette idée-là, et que non seulement c'est fantastique et qu'il est évidemment pour, mais en plus de ça, Monsieur Balfour, vous êtes en train de réaliser la promesse des prophètes. Vous vous inscrivez dans la longue lignée de ces personnages qui ont été choisis par Dieu pour le dévoiler dans le monde. Et là, Balfour, pas juif, hein, mais complètement chrétien, se remplit d'émotions et va toute blinde vers la déclaration Balfour. Et donc voilà, c'est le Rav Kook qui va faire en sorte qu'il y a la déclaration Balfour. En 1918, il part. Il part, il est invité par le Rav Ravel pour aller à New York. Alors, pas pour devenir, mais pour pouvoir transmettre sa Torah également aux États-Unis. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les États-Unis, ça commence seulement à devenir un centre juif. Et le Rav Kouk va aller là-bas. Il part là-bas pour enseigner et il revient avec l'argent qu'il n'a pas demandé pour créer la yeshiva de Merkaz Arab, qu'il va créer lorsqu'il va arriver à Jérusalem. Il revient et en 1920, il revient à Londres et c'est de Londres que ça y est, maintenant il peut, il revient en Eretz Israël. Et il arrive en Eretz Israël en 1921. Ça y est, il rentre. Lorsqu'il arrive en Eretz Israël, une des premières choses qu'il voudra faire, c'est créer un parti politique. Un parti politique, enfin, pas vraiment politique. Au début, c'est un parti spirituel de réflexion qui se veut devenir politique. Et là, je dois vous dire, c'est peut-être la seule chose du Rav Kook qui n'a pas marché. Puisqu'il va créer le parti qui s'appelle Dagel Yerushalayim. Mais bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce que bien que le Rav Kook était déjà un partenaire du Mizrahi, eh bien, il se dit que le Mizrahi n'est pas assez active. Et il dit, il y a un grand problème dans la Histadrut sioniste, c'est qu'à l'époque, l'organisation sioniste mondiale avait dit le sionisme n'a rien à voir avec la religion juive. Eh bien, ça ne va pas du tout. Pour le Rav Kook, il dit, Adéraba, ki shayachuto shel Am Yisrael le'artso, novat mimakor ha'Elohi. Il dit, je crée ce parti qui s'appelle Dagel Yerushalayim pour montrer justement que non, le retour du peuple juif sur sa terre, c'est la volonté divine. Et ça va être tout le principe de sa Torah, mais ça, on a dit qu'on en parlera une autre fois. Bekitsour, en 1919, en 1919, il devient le grand rabbin de Eretz Israël. Eh oui, les amis, le grand rabbin de Eretz Israël. Ça y est, il va créer le grand rabbinat d'Israël. Il prend la succession du Rav Tzvi Pessah Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem avant lui. Eh bien, il prend la décision de créer ce qui devra devenir le Sanhédrin, Harabanut Harashit l'Eretz Israël. Et voilà, ça y est. Et en 1921, ça a mis un peu le temps de se mettre en place, mais en 1921, il devient le Rav Harashi Ashkenazi Harishon chez l'Eretz Israël. À côté de lui, il y aura le Rav Yaakov Meir comme rabbin séfarad Rishon Letzion de Eretz Israël. Et voilà, c'est parti. Et à ce moment-là, il n'habite plus évidemment à Yafo, il devient le grand rabbin de Eretz Israël à Jérusalem, Berechov, qui s'appellera plus tard la rue du Rav Kook, et c'est parti. Et c'est à ce moment-là que dans la maison, il va créer un yeshiva amerkazit à Olamit. Un yeshiva amerkazit à Olamit, ou plus simplement, yeshivat merkaz arabe. Eh oui, c'est quoi l'idée de yeshiva de merkaz arabe? C'est de prendre tout ce qu'il y avait dans la yeshiva de Volojine et de la transplanter en Eretz Israël, en devenant également eh bien, d'autres choses, comme par exemple du Tanakh, la philosophie, de l'histoire, tout ça à l'intérieur de la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est la philosophie et l'histoire, c'est fondamental pour comprendre notre génération et le dévoilement de Dieu, mais si on va l'étudier à l'extérieur de la yeshiva, on est influencé en négatif, donc il faut la faire rentrer dans la yeshiva. Rabotai, évidemment qu'il va avoir une prise de position énorme au niveau de tout ce qui se passe dans la vie publique en Eretz Israël. Il se battra pour le droit des Juifs à aller prier au Kotel. Il se battra pour les droits des Juifs à être représentés de manière juste face aux Anglais, face aux Arabes. En 1933, il prendra la défense de Avraham Stavsky. Nous sommes en 1933, il y a l'assassinat de Chaim Arlozorov et un des hommes de l'organisation des révisionnistes de Jabotinsky, qui s'appelle Avraham Stavsky, est accusé. accusé. Et à ce moment-là, le Rav Kouk, eh bien, est persuadé qu'Abraham Stavsky est innocent. Il en est persuadé, c'est une véritable conviction profonde, et il décide de continuer à prendre sa défense, alors que tout le monde l'a lâché. Il va écrire, il va continuer à prendre sa défense autant que possible, jusqu'à imposer un nouveau jugement. Et finalement, Avraham Stavsky sera complètement blanchi de l'assassinat d'Arlozorov. Et un homme comme Jabotinsky, qui n'était pas un fervent fan des rabbins, eh bien, écrira une lettre au Rav Kook en disant, si vous avez été capable, si la tradition juive a été capable de produire un combattant comme vous pour la justice et pour l'honneur du peuple juif, eh bien, c'est que je me suis trompé et que la tradition d'Israël, la Torah, a énormément à nous apprendre dans notre résurrection actuelle. Les amis, le Rav Kook partira en 1935. Il n'aura pas l'occasion de voir la réalisation de son rêve, la création de l'État d'Israël. Il n'aura eu le temps que d'écrire cette phrase. Et c'est cette phrase qui nous fait la fin du premier cours sur sa vie, mais qui nous fera l'introduction de sa pensée, de sa Torah, lorsque le Rav Kook écrit cette phrase extraordinaire. En quelle langue parle-t-il? Bah, le Rav Kook, il parlait russe, il parlait yiddish, il parlait hébreu. Lorsqu'il arrive en Eretz Israël, alors ça c'est très beau d'ailleurs, c'est une bonne question. Lorsqu'il arrive en Eretz Israël, la majorité des gens qui étudient la Torah l'étudient en yiddish. Et très peu sont ceux qui comprennent bien l'hébreu. Ils comprennent tous plus ou moins l'hébreu parce que les textes ils sont écrits en hébreu, mais le parler c'est différent. Et parmi les cours qu'il donne le Rav Kook, eh bien il y a un cours de Gemara dans lequel va participer également son élève, Arav Anazir, le Rav David HaKohen. Et un jour, le Rav Anazir n'arrive pas au cours. Et bon, le Rav pense qu'il est malade, mais il ne revient pas le lendemain et le surlendemain. Et donc, il vient le voir pour lui demander pourquoi il ne vient plus en cours. Et le Rav Anazir lui dit, parce que j'ai fait un néder, que je n'étudierai maintenant la Torah qu'en hébreu. Et ça me coûte énormément parce que j'adore votre cours, mais j'étudie qu'en hébreu. Et le Rav Kook décide que c'est lui qui a raison. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les cours seront donnés en hébreu. Donc, voilà. Donc, en quelle langue il parle? Finalement, il parlera en hébreu. Non, évidemment que son discours face à la Goudat Israël, il n'est pas en hébreu. Parce que là-bas, Vébet, tout le monde parle yiddish et qu'il y en a plein qui ne comprennent pas l'hébreu de manière parlée. Donc, là-bas, c'est évidemment en yiddish. Mais lorsqu'il deviendra le grand rabbin d'Eretz Israël, tout se passe en hébreu. Et donc, je termine en disant cette phrase du Rav Kook qui va être finalement, comme je l'ai dit, la base de de toute son idéologie. Nous dit le Rav Kook la chose suivante, que l'État d'Israël, qui n'est pas encore créé, Medinat Israël, Yesod Kiseh Hashem Baolam, c'est la base du trône céleste dans le monde. Eh bien, il ne verra pas la création de l'État d'Israël, mais nous sommes en train de réaliser son rêve, nous sommes en train de réaliser sa vision. Le Rav Kook n'était pas seulement un dirigeant de sa génération, mais il était comme a pu l'être le Rambam, comme a pu l'être le Hari, comme ont pu l'être d'autres géants comme le Gaon de Vilna. Eh bien, il était un guide pour toutes les générations. Il est Roé Hadorot. Il est celui qui va lancer une réflexion sur la résurrection du peuple juif qui est fondamentale. Le Rav Kook, comme étant à Cohen Agadol, Sheldorenu, celui qui a su expliquer le chamboulement de la résurrection nationale avec le chilonisme grandissant comme étant une étape vers la réalisation de la promesse des prophètes, de la Géoula, et le Rav Kook amenant une Torah qui va s'appeler la Torah Agoélet, la Torah de la libération. Voilà, c'est la fin de la première partie sur la vie du Rav Kook. Semaine prochaine, on part en arrière chez le Nativ, mais en attendant, il y a Félicia qui a levé la main. Alors c'est parti.
Oui, alors deux questions, Rav. La première, vous ne l'avez pas marié, donc vous n'avez pas parlé de sa femme ni de son
Si, si, si.
fils.
Mais si.
Vous avez parlé quand on n'a pas eu de.
Ah, oula, grande erreur. Il est marié avec la fille du Rav Rabinovitch Théomim. Et ils
Ok.
vont avoir un fils, évidemment, qui s'appelle le Rav Tzvi Yehuda HaKohen Cook, bien évidemment, bien sûr.
Et a-t-il participé
Pardon?
au congrès mondial sioniste et comment il était accueilli là-bas?
Ah, de Herzl.
Oui.
Le premier congrès sioniste de Herzl. Non, il ne participe pas, il n'est pas invité en fait. Il n'est pas invité à ce moment-là à participer, il est encore jeune. En 1897, il est encore Yahassit assez jeune, il a à peine 32 ans, donc il n'est pas encore le rabbin que tout le monde va connaître plus tard. Donc il n'est pas encore, il sera pas là-bas, quoi.
Ok, tonnerre.
Rav, est-ce qu'on peut dire que Merkaz Rav, c'est aujourd'hui dans la pensée du Rav Kook de l'époque? Plus de philosophie, hein.
Écoute, je vais répondre comme ça.
grande question, Rav, réfléchissez et
Alors, je vais
répondez.
répondre comme ça. Je ne sais pas, peut-être que le Rav Cherki est déjà en place et donc il pourrait mieux répondre parce que le Rav Cherki, lui, il a étudié à Merkaz Rav encore sous l'impulsion du Rav Tzvi Yehuda. Donc là, évidemment, il n'y a pas de problème. La grande question, c'est, alors, qu'est-ce qui se passe après le Rav Kook? Après le Rav Kook, il va d'abord avoir le Rav Kharlap qui va prendre sa succession. Donc évidemment, ça, c'est dans la même continuité. Ensuite, il y aura le Rav Tzvi Yehuda, donc évidemment, même continuité. Et la question est, qu'est-ce qui se passe après le Rav Tzvi Yehuda? Il va y avoir le grand schisme qui va amener à la séparation entre Merkaz Harav et Yeshivat Har HaMor. Certains diront que Reb Avroum Shapira n'est pas légitime pour être le successeur du Rav Kook, et certains diront que oui. Moi, j'ai eu la chance d'étudier à Merkaz Harav encore la dernière année de Reb Avroum, avant qu'il ne décède. Il y avait une neshama extraordinaire dans la yeshiva de Merkaz Harav. Écoutez, vous dire qu'aujourd'hui, il y a toujours cette neshama-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Les dernières années où j'étais à Merkaz, c'était un excellent kollel. C'est-à-dire que c'était une yeshiva fantastique pour étudier la halakha et la gemara. Est-ce que... Bah, moi, vous me connaissez, je suis l'élève du Rav Cherki, donc moi, je vais vous dire que la succession de la Torah et de la pensée du Rav Kook, on la trouve chez le Rav Cherki. Mais d'autres veulent voir dans d'autres personnages la succession du Rav Kook. Voilà, je ne me prononcerai pas. Je vous laisserai le soin de demander au Rav Cherki de répondre à cela. Il était évidemment beaucoup plus proche de la pensée du Rav Kook que je ne serai jamais. Donc voilà, demandez-lui à lui. Voilà. Ça répond à ta question, David.
Ara, vous n'avez pas mentionné sa fille et ses petits-enfants.
Nahon, on n'a pas tout mentionné.
Non.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il a perdu ses filles, Ruchama et Toibé, et Esther, quand elles étaient très jeunes. Et c'est son fils qui a poursuivi son œuvre. Il a eu également deux autres filles, Frida Hanna, qui finalement s'est mariée avec qui était la femme de son beau-frère, et Batia Miriam, qui était la femme du Rav Shalom Nathan Rahanan, qui sont parmi les continuités et les élèves du Rav Kook.
Qui a été assassiné même à la longue
Oui,
après.
exactement. À Hebron.
Rav, vous avez parlé de quatre piliers qu'il étudiait. Halakha, Limoud, Pshat, et le quatrième, c'est quoi?
Kabbalah.
Kabbalah. Ah, d'accord. Et vous avez parlé aussi qu'il a, excusez-moi pour ma question, qu'il prenait la défense d'Abraham Staki. Je n'ai pas
Tavski.
compris le nom.
Tavski.
Et il est. Pardon?
Tavski.
D'accord. Et ce monsieur était-il innocent ou
Au final, oui. Il y a eu un nouveau jugement. Il a
d'accord.
été complètement blanchi de toutes ses accusations.
De quoi
Rafiton,
il a été
je vous
accusé?
coupe, je suis désolé, il y a une
Ah
question de...
oui,
Je suis
une
désolé.
10h02 même, oulala. Bon, bah les amis.
Je suis désolé, le Rav Cherki vient de se connecter. Jonathan, je suis
Pourquoi il
désolé,
est accusé?
pour la semaine
Il était
prochaine.
accusé d'avoir tué Arlozorov.
Ah, ok, d'accord. Merci.
Et j'invite le Rav Cherki à prendre la parole. Shalom Rav.
Shalom.
Shavuot
Le monsieur, c'était Stavsky, Stavsky.
C'est ce que j'ai
D'accord?
dit.
D'accord, non, mais je crois que c'était
Merci.
pas bien entendu, c'est tout.